France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons cette semaine de la vengeance, de ses variantes, de ce qu'elle règle et de ce qu'elle ne règle pas. Ce matin, la revanche sociale est-elle une sorte de vengeance ? Elle est souvent présentée comme une vengeance, cette capacité de certains individus à s'extraire de leur milieu d'origine, à incarner, semble-t-il, le succès d'une certaine lutte sociale. Annie Ernaux, à la réception du prix Nobel de littérature en 2002, est revenue sur sa formule employée 60 ans plus tôt dans son journal intime « J'écrirai pour venger ma race ». Elle a dénoncé a posteriori l'orgueil et la naïveté de cette formule. Comment croire qu'en devenant écrivain, au bout d'une lignée de paysans sans terre et de petits commerçants, on puisse, je la cite, « réparer l'injustice sociale de la naissance ». Il n'empêche, Annie Ernaux a eu beau critiquer cette formule qu'elle a dit avoir empruntée à l'époque au cri de Rimbaud « Je suis de race inférieure de toute éternité », c'est la formule qui a été citée maintes et maintes fois pour évoquer son prix Nobel. La revanche sociale est une vengeance, comment ne pas le penser, semblait dire cet engouement pour cette phrase d'Ernaux. Une telle vision des choses, ancrée, tenace, mérite donc une émission entière au sein de notre série sur la vengeance. Bonjour Laëlia Véron.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en stylistique et langue française à l'Université d'Orléans. Vous avez fait paraître en avril 2024 aux éditions La Découverte avec Karine Abiven un livre intitulé « Trahir et venger, paradoxe au pluriel, des récits de transfuges de classe ». Et bonjour Chantal Jacquet.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite de philosophie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de philosophie moderne et notamment de l'œuvre de Spinoza. Vous avez aussi écrit sur le fait de s'extraire de son milieu social d'origine au cours d'une vie, en analysant notamment votre itinéraire et en forgeant, dans un livre paru au PUF en 2014, le concept de transclasse, plus adapté, selon vous, que le mot transfuge de classe. Nous en parlerons, mais sans éclipser Spinoza, qui vous aide à réfléchir à ce sujet même, je rappelle que vous avez récemment réédité aux publications de la Sorbonne un livre intitulé « Les expressions de la puissance d'agir » chez Spinoza. Alors, pour commencer notre réflexion de ce matin, voici une figure de la littérature populaire qui s'est donné la mission de prendre aux riches dès que possible et autant que possible pour donner aux pauvres, pour les venger concrètement, ici et maintenant.
Oh, Jean, père,
ils ont brûlé le village, nous n'avons plus rien.
Mais toi, ils t'ont rien fait.
Où est-il, ce Robin des Bois? Il est là.
Mon Dieu.
Regarde, à cause de toi.
C'est par ta faute que nous sommes dans le malheur, Locksley. J'ai appris aujourd'hui que le shérif s'engage à verser désormais 1000 pièces d'or pour ta capture.
Il vous fera pendre haut et court, un par un.
Que nous proposes-tu? De nous battre contre des cavaliers en armure, rien qu'avec nos mains nues et des cailloux?
Il faut se battre. Mais avec une arme que toi, tu ne possèdes pas. Le courage.
Viens parler, Robin.
Le shérif nous traite dehors la loi. Mais cela nous a délivrés. Et un seul homme libre défendant sa maison est plus redoutable que 10 mercenaires du shérif.
Ils ont des armures.
Et elles te font peur? Un enfant pourrait apprendre à trouver le défaut d'une armure.
Mais nous n'avons plus rien à manger.
Qu'à cela ne tienne, la forêt nous le procurera. Nous y trouverons tout, nourriture, bois pour les armes. Nous nous servirons des arbres pour être en sécurité.
Oui, mais nos familles.
Nos familles.
Le shérif a saisi nos récoltes.
Eh bien, nous allons les lui reprendre.
Robin des Bois, bien sûr. Et ici, c'est la version du cinéaste Kevin Reynolds. Robin des Bois, Prince des voleurs, 1991, avec Kevin Costner. Robin des Bois, c'est le vengeur des pauvres. On va peut-être, au cours de cette émission, critiquer cette notion de vengeance. C'est pas toujours satisfaisant, c'est complexe, ce n'est peut-être pas vraiment de la vengeance, même si ça en a l'air. Mais là, il y a Véron, quand même, il y a un héroïsme magnifique dans cette figure du vengeur.
Justement, Robin des Bois, dans ce qu'on a entendu, est-ce que c'est de la redistribution? Est-ce que c'est de la justice? Il dit on va reprendre. Est-ce que c'est vraiment de la vengeance? Quand on pense vengeance, d'habitude, on pense quand même faire subir à l'autre l'humiliation qu'on a soi-même subie. Il y a quand même cette idée-là de faire souffrir l'autre, alors que dans Robin des Bois, on a plutôt l'idée de juste revenir, au contraire, leur redonner ce dont ils ont été privés. C'est pas exactement la même chose.
Vous ne diriez pas, vous, que c'est un vengeur?
Alors, peut-être parce que justement il y a une dimension collective, leur rendre ce dont ils ont été privés. Mais c'est vrai qu'on pense à vengeance, on pense peut-être plutôt à quelque chose d'individualiste, à la personne, au fait, qui a été lésée ou humiliée, qui va elle-même se venger. Robin des Bois, il est un peu un intermédiaire, donc c'est un peu une figure de la justice en réalité, puisqu'au contraire, la vengeance prétend se passer d'intermédiaire.
Est-ce que, Chantal Jacquet, le fait que Robin des Bois serve les autres lui donne une pureté, quelque chose qu'on n'a pas dans les vengeances plus personnelles, qui semblent plus volontiers un peu auto-centrées?
Moi, je verrais plutôt en Robin des Bois une figure de justicier.
Oui.
Et on entre ici dans une espèce de zone grise, parce qu'en réalité, je suis tout à fait d'accord avec Leïla, parce qu'il y a une dimension plutôt de revanche et de redistribution qui est le propre de la justice, rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc on reprend des terres, et c'est plus un phénomène de compensation, de rééquilibrage, qu'un phénomène de vengeance à proprement parler, si par vengeance on entend ce désir de faire du mal à celui qui nous en a fait, c'est-à-dire de rendre l'appareil, rendre le mal pour le mal, avec l'idée de destruction. La vengeance, elle est tout de même...
Quand même les armées de
ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de lutte, par exemple, la figure de Robin des Bois, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de combat, mais ce qui met en avant, surtout, c'est le courage, c'est le partage, c'est essayer de rassurer pour rééquilibrer les choses. Et je ne vois pas de la haine des riches chez Robin des Bois, je vois plutôt de l'amour des pauvres et la volonté de réparation. Voilà.
Ce qui, bien sûr, nous instruit sur le concept de vengeance. Vous avez l'air de dire l'une et l'autre qu'il faut de la haine. En tout cas, il faut des affects qui évoquent la haine pour pouvoir parler de vengeance. Et que, en général, en tout cas dans le cas que nous venons d'évoquer, la revanche sociale n'est pas une vengeance. Elle n'a pas forcément ces affects en elle. Faut-il des affects de haine pour qu'on soit autorisé à parler de vengeance, Chantal Jacquet?
Il me semble que la grande distinction entre revanche et vengeance, c'est précisément que dans la vengeance, même si la haine est passée au second plan, même si la haine peut se revêtir des oripeaux de l'originalité, de l'astuce, elle est présente, alors que dans la revanche, c'est beaucoup plus ambigu, puisque dans la revanche, il y a ce phénomène de rééquilibrage, et la revanche, elle peut être au service d'une cause qui peut être critiquable, mais la revanche, elle peut aussi être animé par un sentiment de réciprocité et de bonté. Lorsque l'on dit, par exemple, à charge de revanche, quand on nous a rendu un service,
oui,
on ne va pas nécessairement faire du tort à celui qui nous a fait du bien. Au contraire, on veut faire du bien à celui qui nous a fait du bien. Donc, il y a la revanche aussi dans ce cas-là. On veut dire se revancher, d'ailleurs. Alors que dans la vengeance, on ne cherche jamais à faire du bien. Donc, si on fait du bien dans la vengeance, c'est de façon indirecte et presque malgré soi, parce que le moteur, l'énergie première, c'est la haine. Alors la haine peut avoir une puissance, effectivement, elle peut déclencher des vertus comme l'inventivité, l'astuce,
oui,
mais en elle-même, elle vise avant tout l'anéantissement.
Vous êtes d'accord, là, Elia, avec ces distinctions que vient de faire...
Tout à fait. D'ailleurs, quand on pense à vengeance, on pense à œil pour œil, dent pour dent. On a vraiment l'image de la brutalité. Hein. On va faire mal à l'autre comme il nous a fait mal, alors que la revanche va avoir quelque chose de plus distancié. Et d'ailleurs, les récits
Il faut que je... Là, franchement, je suis obligée de répondre, parce
Dites-moi.
Que nous avons fait un premier épisode
largement
consacré à la loi du talion, où précisément, il nous a été expliqué que œil pour œil, dent pour dent, c'est pas l'œil concret crevé parce que pour vengeance, manger un œil crevé, c'est l'équivalent
c'est
de l'œil
c'est quand même,
qui doit être donné en argent.
C'est la proportion.
Alors, laissons tomber cette image-là, mais disons que dans la vengeance, il y a effectivement cette idée de rendre le mal qu'on a subi. Alors que dans la revanche sociale, c'est peut-être plutôt effectivement aller vers un équilibre, aller vers le fait de déjouer des pronostics, par exemple. Et c'est pour ça que les récits transfuges de classe que vous évoquiez, avec la phrase d'Annie Ernaux, venger sa race qu'elle a elle-même nuancée, sont plutôt pour moi des récits de revanche sociale, il y a l'idée de « j'y suis arrivé malgré tout », beaucoup plus que de vengeance, parce que ce ne sont pas des récits qui vont raconter comment les transfuges vont se servir, par exemple, de leur statut social pour humilier ceux qui les ont humiliés. Annie Ernaux, elle avait eu cette formule « venger sa race » à propos des jeunes filles de la bourgeoisie du Havre. Bon, elle raconte pas comment elle se serait servie, par exemple, de son nouveau capital culturel social pour aller les humilier à son tour. Ce ne sont pas des récits qui vont mettre en scène des humiliations, des vengeances dans ce sens-là. Ce ne sont pas des récits qui vont énormément égratigner les élites, un peu quelquefois avec Édouard Louis, par exemple, qui a tué mon père. Mais justement, il n'y a pas cette vengeance, il n'y a pas faire souffrir la même personne qui nous a humiliés socialement. Donc ce sont plutôt des revanches.
Et comment se fait-il, d'après vous, Laëlia Véron, que la phrase de Annie Ernaux, corrigée par elle, nuancée, comme vous venez de le dire, soit restée si marquante? On continue de dire « Ah oui, Annie Ernaux, le Nobel, son discours, elle a vengé sa race ». C'est intéressant comme représentation, ça reste très ancré.
Parce que je pense que ça synthétise peut-être une énergie et une volonté. Elle parle de cet orgueil de sa jeunesse. C'est un mouvement qui peut se comprendre, mais qui doit être nuancé d'un point de vue politique. Elle le disait elle-même, pourquoi une trajectoire individuelle effacerait des siècles de domination collective. Donc pourquoi une revanche sociale individuelle aurait cette dimension de rétribution sociale politique. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Bah peut-être parce que on souhaite qu'il y ait une vengeance sociale, peut-être parce que, on en parlait avec Chantal Jacquet tout à l'heure, quelquefois on dit quand on ne peut pas faire, et finalement ce sont des récits qui mettent en scène qui ne mettent pas vraiment en scène de vengeance sociale, qui ne mettent pas vraiment en scène de retournement des hiérarchies sociales, et peut-être que le discours va compenser ça, hein, peut-être qu'on dit d'autant plus qu'on en fait moins.
Chantal Jacquet, je vous laisse analyser ces problèmes autour précisément de la formule de Annie Ernaux corrigée par
elle. Il me semble justement que la formule d'Annie Ernaux exprime la vérité d'un affect. Et cette vérité, elle est profonde en tant qu'elle exprime l'affect. Ça ne veut pas dire que, effectivement, en réalité, on est affaire à de la vengeance. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand on se venge de quelqu'un, et il faut se poser la question de qui on venge, contre qui. Est-ce qu'on peut dire que la race, entre guillemets, autrement dit la classe, hein, en termes plus modernes, ait été vengée? Non, parce qu'elle est toujours dans la même situation sociale. Rien n'a changé. Il y a peut-être un réconfort symbolique à voir décrire la condition sociale des classes, des petits commerçants, des classes populaires. Mais il n'y a pas de vengeance à proprement parler. Et si Annie Ernaux rectifie son cri premier, c'est qu'elle l'analyse cette fois-ci du point de vue effectif. C'est-à-dire, elle reconnaît que c'est pas une vengeance. Et à mon avis, si on veut à toute force la mettre dans le cadre d'une vindicte personnelle, c'est peut-être aussi parce que ces transclasses peuvent constituer une menace et qu'on a envie de les réduire à des figures de haine. Derrière, il y a la crainte de voir aussi des privilèges peut-être remis en cause. Donc si on réduit la demande de justice à une simple vengeance, on dévalue cette demande, on dévalue le message qui est celui d'un rééquilibrage vers une société sans classe. Donc je crois qu'il y a aussi ce souci d'interpréter qui doit être questionné. Pourquoi c'est aussi tenace? Alors je suis d'accord avec les raisons qui sont mises en avant. C'est aussi tenace parce que on voit dans le transclasse peut-être aussi une menace qui dénonce la société de classe, même si dans les faits cette dénonciation resterait purement verbale et ne transformerait rien, puisque pour pouvoir transformer, effectivement, il faut qu'il y ait une action collective.
Ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs quand il y a des scènes de vengeance sociale qui sont mises en avant dans les récits de transclasse, il y en a certaines, mais elles ne sont pas présentées comme des bons moments de la trajectoire en quelque sorte. Il y a Édouard Louis qui va raconter comment à un moment, son acquisition d'un capital culturel lui a permis vraiment de se venger de ses parents, de la violence par exemple homophobe infligée par son père. Il se venge de cette violence via une autre arme, via un autre capital, le capital culturel. Il raconte le plaisir qu'il a eu à un moment de sa trajectoire à avoir par exemple des références que ses parents n'allaient pas comprendre, à pouvoir les corriger sur leur langage, mais il va présenter ça comme une étape assez détestable qu'il fallait dépasser et qui était justement de la vengeance personnelle.
Si vous voyez, là c'est vraiment... C'est quand même très bizarre puisque vous m'avez expliqué toutes les deux que dans la vengeance, il y a envie de blesser la classe supérieure qui nous a fait souffrir ou éventuellement nous a humiliés, même parfois très concrètement. Mais dans le cas d'Edouard Louis que vous évoquez, c'est sa propre mère au téléphone qui veut faire souffrir en lui disant « Voilà, je suis allée à une conférence, elle n'a pas vraiment d'idée de ce que ça peut être qu'une conférence telle que... »
Parce qu'il n'y a pas que la violence sociale. Il y a aussi la violence notamment homophobe qu'il a subie de la part de ses parents. Et c'est de cette violence-là dont il se venge par son capital culturel qui est devenu un capital social. Vous voyez, là, il faut distinguer les types de violences. La violence qu'il a subie de la part de ses parents, c'est une violence homophobe, verbale, physique, et il se venge via une autre violence, une violence culturelle, symbolique, on pourrait dire, c'est ce qu'on appelle la violence symbolique, et nouvellement sociale. Là, c'est une scène de violence. Mais vous voyez, cette violence-là, il ne la présente pas comme une violence politique souhaitable, il la présente comme un épisode malheureux.
Et vous croyez vraiment, pour reprendre votre analyse, Chantal Jacquet, que lorsqu'on ressasse la phrase de Annie Ernaux, que pourtant elle a nuancé « je vengerai ma race » ou « j'ai vengé ma race », c'est un peu pour salir son prix, le prix reçu, le prix Nobel, pour faire voir quelque chose d'un peu moche, hein, peut-être, dans sa réussite. Vous ne croyez pas, au contraire, que pour plein de gens, ils ont envie qu'il y ait des vengeurs. Ils trouveraient formidable que des écrivains bourgeois l'est un peu mauvaise, oui, parce que c'est cette dame qui a eu le prix, elle a un itinéraire exceptionnel. Vous voyez, vous mettez ça du côté d'une, pour salir un peu la chose, mais pour d'autres, au contraire, ça la magnifie. Eh ben oui, venger, c'est bien, ce sont des affects que nous avons tous en nous. Nous aimons que des gens se vengent et nous vengent, non?
Alors, c'est un affect qui peut être tout à fait présent, mais il ne me semble pas que ça soit, je ne sonde pas les reins et les cœurs, mais que ce soit l'affect majoritaire de tous ceux qui sont en position d'infériorité sociale, tous ceux qui sont dominés. Ce qu'ils demandent avant tout, c'est la justice. Alors, on n'a pas forcément conscience exactement de ce que l'on demande quand on demande la justice. Ça peut prendre, ça peut être nourri d'affect haineux, mais ça peut être aussi nourri d'espérance, ça peut être nourri de volonté de réhabilitation, de désir de fierté. Donc c'est extrêmement complexe et, à mon avis, c'est extrêmement réducteur de vouloir mettre en avant un seul affect comme étant l'affect moteur d'un désir bien plus profond, qui est le désir de pouvoir exister avec des conditions matérielles, des conditions culturelles, qui permettent à chacun d'exprimer sa puissance d'agir, qui permettent à chacun de se réaliser. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est salué aussi à travers le travail d'écrivain, qui porte cette douleur, qui porte cette souffrance, qui porte cette espérance aussi. Donc il y a tout cela dans Annie Ernaux. Et il y a aussi un don reversé, il y a aussi infiniment d'amour. Donc, tous ces affects sont combinés. Et quand on en isole un, au fond, je crois qu'on méconnaît la richesse du parcours, tout ce qui alimente une révolte, tout ce qui est moteur, au fond, dans la libération des oppressions.
Juste, si je peux me permettre, ce n'est pas juste un problème de réception de personnes qui auraient isolé cette phrase-là. C'est une phrase qu'elle a nuancée, certes, mais que beaucoup vont reprendre, vont citer. Les récits de transfuges de classe s'entrecitent énormément et c'est devenu une phrase un peu type qu'on retrouve dans énormément de récits à côté d'autres formules comme la honte d'avoir eu honte. Donc, c'est devenu, c'est le problème aussi des récits à succès, des formules à succès. Elles se figent et effectivement, elles perdent aussi leur sens. Venger ma race, ça devient une phrase qui est mobilisée, qui est mobilisée dans beaucoup de récits de transfuges sans que ce soit réellement lié à des représentations de vengeance sociale ou même de justice sociale, quelquefois.
Il y a toutefois une grande diversité des récits et surtout, si on se décentre de la France, quand on voit les récits de transcasse qui sont faits, par exemple, en Italie ou en Allemagne, ce ne sont pas du tout les mêmes ressorts. Par exemple, les oppositions ne sont pas nécessairement entre la province et Paris, capitale de la culture, mais par exemple, entre le Nord et le Sud, ou en Allemagne, entre l'Est et l'Ouest. Donc, il y a des déplacements qui se font. Et c'est la raison pour laquelle le risque, c'est toujours de prendre, effectivement, comme vous le dites, des récits qui ont eu du succès, qui ont été imités, comme devenant une sorte de norme générale, et d'être focalisé dessus en ne prenant pas suffisamment de recul pour voir aussi cette diversité. Et surtout, ceux qui ne prennent pas nécessairement la plume parce qu'ils n'ont pas l'aisance pour le faire, mais qui peuvent témoigner et ne pas nécessairement partager ce motif de vindicte.
Donc la revanche sociale, me dites-vous à ce stade, n'est pas de la vengeance. Très souvent, il y a beaucoup d'autres choses plus positives, plus intéressantes que de la vengeance, qui se traduit par l'envie de faire un peu du mal à des gens qui étaient longtemps supérieurs à nous socialement. Alors prenons des cas qui pourraient se rapprocher de la vengeance. Par exemple, des situations d'humiliation sociale qui produisent un débordement d'affect. Et débordement qui peut aller jusqu'au massacre. Alors là, on va peut-être avoir un autre problème. Si c'est purement spontané et non prémédité, est-ce vraiment de la vengeance ? Vous me le direz. Prenons le cas du film Parasite de Bong Joon-ho de 2019, où un couple très aisé est en train de parler. Ils ne savent pas que la famille de leur domestique, très pauvre, est cachée dans la maison, et sous le canapé sur lequel ils sont en train de discuter. Et vous le savez, si vous avez vu le film, le maître des lieux évoque une troublante odeur, celle précisément de ce domestique caché. Et il a une façon d'en parler que le domestique n'oubliera jamais.
Tu veux pas qu'on dorme ici, chérie ?
Quoi ?
Regarde, on a une super vue sur le tipi.
Oui, c'est une bonne idée. Je serai rassurée.
Vendu.
Comme ça, on veillera sur lui en dormant.
Oh, ce môme. Attends un peu. Tu sens ? Ça vient d'où, cette odeur ?
Quelle odeur ?
Celle de Monsieur Kim.
Ah bon ?
Ouais.
Je vois pas de quoi tu parles.
C'est vrai ? T'as dû la sentir, pourtant. Cette odeur, elle est partout dans la voiture. Comment te la décrire ?
Une odeur de vieux monsieur.
Non, c'est pas ça. Ce serait un peu comme des vieux radis. Non, c'est pas ça. Ça sent comme quand on fait bouillir des torchons. Oui, c'est ça, c'est cette odeur. Enfin, bref. On dirait tout le temps qu'il va pas rester à sa place. Mais, en fin de compte, il s'arrête à temps. Il sait conserver son rang. C'est bien.
Oui, c'est bien.
Contrairement à son odeur immonde. C'est vrai, ça empeste jusqu'à la banquette arrière.
Mais décris-la moi, ça sent quoi exactement ?
J'y arrive pas, c'est hyper compliqué à décrire. Quand je dois prendre le métro, il y a cette odeur qui flotte. Oui, c'est ça.
Ça fait une éternité que j'ai pas pris le métro.
Les gens qui utilisent le métro ont une odeur bien reconnaissable.
Alors si j'ai prononcé le mot domestique, c'est pour restituer la dureté du rapport de classe en Corée du Sud, puisque c'est là que se passe ce film. Ces mots du maître des lieux, du maître de maison, sur l'odeur de la personne qui travaille pour lui, comment vous entendez cela ? Est-ce que c'est ce qu'il y a de pire comme humiliation possible ? Pourquoi ? Parce que c'est le sens olfactif qui touche peut-être à ce qu'il y a de plus intime. Comment vous lisez les choses, Chantal Jacquet, vous qui avez vu ce film et qui connaissez, je pense, la fin, en tout cas tout le monde la connaît.
Effectivement,
ça va générer un massacre terrible.
On va avoir, pour le coup, une vengeance, puisque le Monsieur Kim va assassiner son maître. Et la disqualification par l'odeur est peut-être la disqualification la plus violente. Comme vous l'avez dit, l'odeur, c'est ce qu'il y a de plus intime, c'est une émanation de la peau. L'odeur, c'est en quelque sorte, métaphoriquement, notre essence, alors donc à la fois notre parfum, mais en même temps notre identité. Et le mépris de classe passe très souvent par ce que j'ai appelé le nez de la haine, dans mon livre Philosophie de l'odorat, par la disqualification olfactive, parce que ce qu'il y a de plus insupportable dans un domestique ou dans ceux que l'on juge inférieurs, c'est l'intrusion par l'odeur. Le fait que l'odeur n'a pas de frontières, l'odeur ne respecte pas les places et les rangs, l'odeur est toujours déplacée, elle est volatile, et elle force à une ingestion de l'autre. Autrement dit, on est obligé d'incorporer le corps de celui qu'on déteste, de celui qu'on voudrait tenir à distance. Et je crois que c'est peut-être la manière la plus violente d'humilier quelqu'un que de le disqualifier par son odeur. Ce qui est très très frappant, l'odeur, elle montre qu'on ne peut pas sentir justement le domestique. Et ce qui est tout à fait remarquable dans le mépris de classe, c'est ces typologies olfactives. Et on le voit même dans les efforts pour ceux qui sont jugés inférieurs de se parfumer pour effacer leur odeur corporelle, qui sont à nouveau stigmatisés. Alors, l'exemple le plus célèbre, c'est dans La Cerisaie, où les héritiers qui ont perdu leurs biens désargentés voient racheter leur propriété par un riche marchand. Et quand le marchand rentre et fait une observation à l'aristocrate déchu, l'aristocrate Gaïev dit « Il y a là une odeur de patchouli ». Le patchouli, c'est l'odeur du marchand, une odeur bon marché d'une certaine manière, et même par la requalification olfactive, on se redisqualifie. Donc on peut comprendre que humilier quelqu'un pour ses odeurs, ça puisse être la manière de l'effacer de la façon plus radicale, et dans le cas de Parasite, on peut parler de vengeance, parce que même si ça n'a pas été prémédité, il faut noter que quand Monsieur Kim va tuer Monsieur Park, c'est au moment où il rentre dans la voiture et où Monsieur Park fait un geste pour éventer oui. Donc l'air et ne pas avoir absorbé l'odeur. Donc c'est comme une sorte de rappel oui. de quelque chose qui est là et on peut dire que chez Monsieur Kim, il y a une sorte de ressentiment secret, c'est-à-dire quelque chose qui travaille, quelque chose qui est ruminé, même s'il n'y a pas préméditation. C'est l'occasion qui est trop belle, et c'est insupportable, ce rejet, une seconde fois.
Donc c'est une vengeance, vous êtes d'accord, là, il y a Véron, ce moment qui est un vrai moment de massacre, hein, puisque Monsieur Kim tue Monsieur Park, mais ensuite sa famille va se jeter sur la famille qu'il emploie. C'est sanglant. Et personnellement, je trouve que c'est ce qui fait que... Enfin voilà, chacun réagit à ce film, mais je crois que ça a généré quelque chose d'un peu exaltant chez certaines personnes. Moi, j'avoue que ça m'a complètement figée, parce que la proximité du massacre dans la vie quotidienne, c'est une question qui me hante. Les massacres ont presque toujours eu lieu dans la vie quotidienne, et c'est saisissant. Est-ce que ça a à voir encore avec la lutte sociale quand on en est au massacre ?
Non, parce que alors je voudrais simplement rajouter que même cette scène, effectivement, elle symbolise beaucoup de choses. Ce qui va aussi motiver le passage à l'acte, c'est une accumulation, et pas seulement de violence symbolique avec la question de l'odorat, mais le fait que cette famille-là va tout perdre, hein, perd sa maison. Donc juste avant le passage à l'acte, il y a aussi le gouffre économique qui se creuse entre les deux familles, avec une qui a tout perdu, qui est dans une sorte de camp d'accueil pour les personnes qui ont perdu leur maison, et l'autre qui va dépenser des 1000 et des 100 à un anniversaire. Donc il y a quand même aussi ça, il ne faut pas oublier, il y a cette divergence économique. Ce n'est pas une simple histoire de mépris de classe un peu symbolique et abstrait. Pourquoi est-ce que ce n'est pas... Ça peut être une vengeance, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas politique ? Parce que ça ne va pas avec un plan de redistribution ou de renversement, si on veut être révolutionnaire, des hiérarchies. D'ailleurs, Parasite, ça se termine avec les places de chacun qui redeviennent un peu les mêmes, malgré le massacre.
Il y a des affects. La politique, c'est aussi des affects. Pas forcément alors, projet redistributif très conceptualisé.
Si le principe de la politique, je pense que c'est quand même le fait effectivement de voir autrement le découpage de l'ordre social, et pour ça, ça implique un certain projet, une certaine planification, et je pense que les théoriciens politiques révolutionnaires, paradoxalement, n'aiment pas trop la vengeance, qui va au contraire limiter déjà de l'individuel, et limiter à justement redonner la violence pour la violence, sans aller plus loin, sans aller avec cette idée de pas simplement rendre domination pour domination, mais et d'éradiquer les dominations si on veut aller jusque là, ou en tout cas de redistribuer les rapports sociaux. Il n'y a pas ça du tout dans Parasite. Hein. Dans Parasite, c'est pas un projet politique monté, comme vous le dites, c'est une pulsion à un moment, c'est un trop-plein. Mais la fin, c'est bien celui qui va revenir littéralement dans le mur, redevenir un parasite.
Hein. Alors je vais vous donner un autre exemple qui ne nous empêchera pas de faire des comparaisons. De revenir à celui-ci si vous le souhaitez. Je souligne pour nos auditeurs que nous sommes dans une émission qui pose cette question ce matin. La revanche sociale est-elle une sorte de vengeance ? Je suis en compagnie de Laëlia Véron et de Chantal Jacquet. Alors dans Les Illusions perdues de Balzac, Lucien de Rubempré, qui vit dans les années 1820, donc en pleine restauration, et qui vient d'un milieu social bien plus bas que celui des belles maisons liaison d'aristocrate où il espère pouvoir être reçu est mis un peu à la porte par Madame d'Espard, qui a déclaré, après avoir accepté de le voir, qu'en fait elle était indisposée. Et il la voit quelques minutes après dans une calèche avec Madame de Bargeton. La calèche passe, personne ne le regarde. Et à ce moment-là, Balzac écrit « La rage, le désir de la vengeance s'emparèrent de cet homme dédaigné. S'il avait tenu Madame de Bargeton, il l'aurait égorgé. La vengeance est un plat qui se mange froid, disent certains. Lucien de Rubempré deviendra journaliste et c'est par la plume qu'il va se venger. Écoutez le texte même de Balzac.
Dans la verve où il était, Lucien fit à petite plumée l'article terrible promis à Blondet contre Châtelet, Madame de Bargeton. Il goûta pendant cette matinée l'un des plaisirs secrets les plus vifs des journalistes, celui d'aiguiser l'épigramme, d'en polir la lame froide qui trouve sa gaine dans le cœur de la victime, et de sculpter le manche pour les lecteurs. Le public admire le travail spirituel de cette poignée. Il n'y entend pas malice. Il ignore que l'acier du bon mot altéré de vengeance barbote dans un amour-propre fouillé, savamment blessé de 1000 coups. Cet horrible plaisir, sombre et solitaire, dégusté sans témoin, est comme un duel avec un absent, tué à distance avec le tuyau d'une plume. Comme si le journaliste avait la puissance fantastique accordée au désir de ceux qui possèdent des talismans dans les contes arabes. L'épigramme est l'esprit de la haine. De la haine qui hérite de toutes les mauvaises passions de l'homme. De même que l'amour concentre toutes ses bonnes qualités. Aussi n'est-il pas d'homme qui ne soit spirituel en se vengeant, par la raison qu'il n'en est pas un à qui l'amour ne donne des jouissances. Malgré la facilité, la vulgarité de cet esprit en France, il est toujours bien accueilli. L'article de Lucien devait mettre et mit le comble à la réputation de malice et de méchanceté du journal. Il entra jusqu'au fond de deux cœurs. Il blessa grièvement Madame de Bargeton et le baron Châtelet, son rival.
France Culture. Avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Ce texte des Illusions perdues de Balzac est lu par Nicolas Berger, notre réalisateur. Tuer par la plume, est-ce différent de tuer au couteau, à main nue, comme Monsieur Kim dans Parasite ? Est-ce que c'est plus une vengeance, au sens où la vengeance exige de l'élaboration, de la préméditation, c'est pas exactement comme cela que les choses se passent dans le film Parasite. Et pour le coup, est-ce politique, plus politique chez Balzac, Chantal Jacquet?
Alors dans le cas de Rubempré, on a affaire effectivement à une vengeance mûrement réfléchie, remâchée, alors que dans Parasite, elle est sourde au sens où il y a cette condition économique préalable, je suis tout à fait d'accord avec Laila sur ce point, qui prépare l'explosion. Donc on a une pluralité de types de vengeance, une vengeance bien mûrement réfléchie, et puis une vengeance qui sera plus sous la forme d'une explosion de violence, mais dans les deux cas c'est la haine qui anime. Alors dans le cas de Rubempré, je dirais qu'il y a une vengeance, il y a une forme de vengeance personnelle, mais pas une vengeance politique, ni même une vengeance sociale, parce qu'au fond, bon, Rubempré qu'on présente parfois comme un transfuge de classe ou comme un transclasse, est une figure quand même ambiguë, parce que en réalité il est issu d'un milieu ambivalent, dans la mesure où certes il est pharmacien et issu d'une famille de pharmaciens, mais sa mère a perdu le titre de noblesse que Lucien voudrait racheter, le titre de Rubempré. Donc en quelque sorte c'est un déclassé qui voudrait être à la place des nobles et qui veut revenir à leur table, hein. Et en ce sens-là, on peut dire oui, il se venge de l'humiliation par sa plume, mais cette vengeance n'est pas politique parce qu'elle ne remet absolument pas en cause l'ordre social. Au fond, c'est simplement une manifestation subtile de l'envie. Il s'agit simplement de détrôner ceux qui seraient, non pas des usurpateurs, mais ceux qui sont au fond ses égaux, du moins symboliquement, puisque chez Lucien, il y a la nostalgie de cette charge qui veut racheter à toute force et toute son ambition, ça consistera effectivement à aller manger à la table des nobles. C'est pour cela qu'il se venge, parce qu'on l'a traité comme un roturier. Donc je dirais qu'il y a une dimension sociale, mais pas une dimension politique. Il prend pas en charge, au fond, un combat qui est autre qu'un combat personnel, qui est donc limité à sa petite blessure d'ego narcissique, pourrait-on dire, et non pas une blessure qu'on pourrait qualifier de profondément sociale et politique.
Vous êtes d'accord, Olivia Véron ?
Oui, tout à fait. Je voudrais souligner la belle métaphore filée qu'on a dans ce texte de Balzac sur l'épigramme journalistique avec qui va lier le plaisir et la haine avec cette image du poignard. Le poignard, donc, c'est la cible trait qui va toucher la cible, mais le public ne voit que le manche, ne voit que le côté esthétique du trait d'esprit, alors que la cible qui reçoit le trait de la caricature en plein cœur, elle sent bien le caractère contondant. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, dans le sens que alors Lucien, il souffre effectivement d'une humiliation sociale. Son nom légal, c'est Chardon, ce n'est pas un nom d'aristocrate. Et lui, il veut à tout prix être appelé Rubempré, avoir le droit d'être appelé Lucien de Rubempré. Le moment où ces grandes dames l'ont laissé, c'est justement quand l'une d'entre elles a appris qu'il n'avait pas le droit légalement de revendiquer ce nom de noble et qu'il n'était qu'un Chardon. Il réussit à se venger justement en changeant de champ, on pourrait dire, en passant dans le champ journalistique et en se servant des mots. Et là, c'est un moyen effectivement de détrôner, d'humilier, de se venger. Mais effectivement, il ne va pas poursuivre. Lui, ce qu'il veut, c'est réintégrer le champ aristocratique, et ce sont ces dames qui pourront se venger à leur tour en lui faisant croire qu'il pourra récupérer son nom de noble, et il ne le récupérera jamais. Il aurait pu mener une vengeance politique s'il avait le souci effectivement, par exemple, le souci de Balzac d'exalter le talent, de dire qu'il n'y a pas que la naissance qui compte, même si, bon, Balzac était un peu ambigu avec les histoires de particules que lui aussi voulait récupérer.
Non, mais lui, il était tout simplement monarchiste et pro-aristocratie.
Il était compliqué parce qu'il était monarchiste et pro-aristocratie.
Et pourquoi pas,
mais pas uniquement parce que vu qu'il savait que lui-même n'était pas reconnu comme aristocrate, il allait aussi en même temps exalter le talent et le fait de pouvoir faire une ascension sociale avec son talent. Lui aussi, il était ambigu, et on retrouve effectivement cette ambiguïté chez Lucien.
Le problème, maintenant, il y a le regard de Balzac sur son propre personnage. Pour Balzac, c'est sans doute une vengeance, ça lui a fait du bien, et peut-être même que ça fait plaisir au lecteur.
Ah, mais ça fait complètement plaisir au lecteur, parce que les traits d'esprit des journalistes, ils sont brillants dans Illusion perdue, c'est ce qui est mis en avant dans le film, par exemple. Bien sûr que ça fait plaisir au lecteur du journal et au lecteur du roman.
Pour Balzac, ce qui est à un deuxième niveau, c'est pathétique.
Ah oui.
Puisque Rubempré, au lieu de s'adonner à ces petits jeux mesquins d'une mini notoriété qui ne vaut pas grand-chose du monde journalistique, il a raté sa carrière de grand écrivain. Donc, à un deuxième niveau, Balzac dit « Oh oui, c'est une vengeance, et puis ça fait plaisir, c'est les affects haineux, et puis ça fait de la bonne littérature, n'est-ce pas ? C'est moi qui l'ai fait. » Mais en vérité, tout cela montre la médiocrité.
Il n'a pas fait son gros roman, contrairement à d'Arthès, contrairement aux autres personnes qui représentent la grande littérature. Effectivement, Balzac va parler de la vulgarité de cet esprit. Après, là aussi, moi, je nuancerai quand même, Balzac a été lui aussi journaliste et a mené ensemble sa carrière de grand romancier et de journaliste. Et dans Illusion perdue, il va nous dire qu'effectivement, l'esprit journalistique est vulgaire et petit, et dans La vengeance. Et en même temps, c'est quand même celui-là, on l'a dit, qui nous plaît. Et dans Illusion perdue, on n'a jamais les grandes pages des grands romans de d'Arthès. Par contre, on a plein de traits d'esprit qui fonctionnent, qui nous séduisent. Donc, ça reste quand même assez ambigu.
Oui, parce qu'en fait, ça fait appel à l'imaginaire. C'est une vengeance, on pourrait dire, de plume. C'est-à-dire comme quand Sade dit décharger de tête. Autrement dit, c'est pas une vengeance effective, une vengeance dans l'imaginaire. On apprécie le bon mot. On apprécie, au fond, qu'on tue à blanc, d'une certaine manière.
Oui.
C'est pas véritablement une haine destructrice qui telle qu'on peut la concevoir lorsque on s'empare de quelqu'un, on le met en pièces sous l'effet de la vengeance. Donc, en ce sens-là, effectivement, ce sont des petites vengeances et qui restent de l'ordre du mesquin, qui n'ont pas une portée politique décisive.
En fait, c'est intéressant parce que c'est les vengeances verbales, les vengeances par le mot et par les médias, et ça peut faire penser à des enjeux contemporains. Elles ont un côté à la fois très fort, dans le sens que même dans Balzac, on pourrait dire qu'elles sont virales quand elles sont dites. Elles vont faire vraiment mal d'un point de vue de l'amour propre, elles vont être répétées par tout un chacun, donc elles ont un côté performatif. Mais c'est un côté performatif très éphémère, parce qu'effectivement, d'un point de vue social, ça va plutôt même renforcer la position des cibles, parce que leurs alliés vont plutôt se grouper contre eux, et ça ne changera pas du tout les places sociales des uns et des autres.
Alors maintenant, j'aimerais bien, s'il vous plaît, Chantal Jacquet, qu'on parle un peu de la question de la vengeance chez Spinoza. Donc Spinoza a beaucoup évoqué les affects, peut-être qu'on ne va pas rentrer dans le détail de la distinction entre affect et passion, c'est plutôt du respect et de la curiosité pour cette chose, semble-t-il, que sont les affects. Il n'y a pas de connotation comme dans passion, donc le mot affect montre une curiosité très profonde de Spinoza pour cette question. Le désir de se venger, est-ce un affect triste? Est-ce un affect important? Doit-il cependant être converti en autre chose pour Spinoza?
Alors, la question de la vengeance chez Spinoza est extrêmement complexe. Il y a un affect qu'il mobilise dans le traité politique, qui est celui du désir de vengeance, mais en latin, le terme est desiderium. Alors, desiderium, ça veut dire quoi? Ça fait allusion à un désir qui est frustré, qui n'a pas pu aboutir. Le désir chez Spinoza, la cupiditas, c'est l'essence de l'homme en tant qu'elle est déterminée à faire les choses nécessaires à sa conservation. Le desiderium, c'est une impossibilité à faire, c'est un souhait frustré. On voudrait se venger dans le desiderium de vengeance, mais on ne peut pas. Alors si le désir de vengeance comme cupiditas pour Spinoza est toujours mauvais, parce qu'il est l'expression de la haine. En revanche, le desiderium de vengeance est indirectement bon. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est précisément parce que on n'a pas pu se venger. Il y a une forme d'impuissance à faire payer à autrui le tort qu'on a subi, que quand on subit un tort en commun, on peut s'unir à d'autres. Et c'est à la base, pour Spinoza, des ligues et en même temps de l'état civil. Dans le traité politique, il va avancer des motifs pour lesquels les hommes s'associent. Alors, ils peuvent s'associer pour des motifs rationnels, mais c'est quand même assez rare parce que tous les hommes ne vivent pas en permanence sous la conduite de la raison. Il va mettre en avant la crainte, notamment la crainte de la solitude, et donc on s'associe pour se préserver, l'espoir, c'est-à-dire l'amélioration et l'entraide, mais aussi ce desiderium de vengeance qui fait que, précisément parce qu'il est frustré, précisément parce qu'on ne peut pas assouvir sa haine et on ne peut pas faire payer, détruire l'adversaire, eh bien on s'associe pour former un État, mettre en place des lois et rendre justice. Et donc, ce desiderium de vengeance, pour Spinoza, devient l'auxiliaire de la justice, et c'est en ce sens-là qu'il peut être indirectement bon. C'est une forme de tristesse, parce qu'on est frustré, mais une tristesse qui peut avoir des effets indirects d'union entre les hommes. Alors, il faut bien préciser, et ça c'est important dans le texte, Spinoza met en avant, dans le traité politique, le désir commun de se venger de quelques dommages subis en commun. Autrement dit, c'est un désir partagé, mais pour un tort partagé. Et c'est là qu'on peut faire société. Quand on est plusieurs à avoir été lésé, autrement dit, ça n'est pas quelque chose qui se réfère à un amour propre, qui se réfère qu'à soi, mais il y a effectivement un dol commun, hein, un dol qu'on peut objectiver parce qu'il est partagé, et à ce moment-là, eh bien, ce souhait frustré de remédier au tort qui a été fait, eh bien, peut donner naissance à la justice. Donc, si j'avais à légitimer, dans le cas de la vengeance, oui, quelque chose de positif, ce serait justement en tant qu'elle est frustrée, oui, et comme elle est frustrée et inassouvie, elle demande une autre forme d'assouvissement par déplacement.
Donc, et c'est merci, peut-être là que la justice peut naître. Merci d'avoir cité les phrases mêmes de Spinoza. Et par conséquent, je voudrais peut-être qu'on applique à un cas précis cette frustration dont vous venez de parler. Cela m'évoque Antoine Bloyer de Paul Nizan, ce roman de 1933 qui porte largement sur l'histoire. Enfin, Antoine Bloyer, c'est un peu le père de Paul Nizan. Il y a une frustration de cet homme qui pourtant s'est élevé socialement, mais n'est jamais vraiment satisfait par ce qu'il a obtenu. Je rappelle qu'il vient de la classe ouvrière, il est devenu forgeron aux ateliers de la Loire à Saint-Nazaire, diplômé de l'École nationale des arts et métiers d'Angers. Il s'élève au sein de la compagnie du chemin de fer, deviendra chef de dépôt principal à Tours, directeur de dépôt à Périgueux, puis directeur des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine. Et cet homme éprouve un vide, une neurasthénie d'ailleurs, il va consulter à ce sujet. Et ce vide, c'est comme si il n'était pas empli par les valeurs bourgeoises que d'autres ont été dans le lait de leur mère. Il était toujours exclu de cette classe vers laquelle il s'est dirigé. Écoutez ce très bel extrait de la fin d'Antoine Bloyer de Nizan.
Les aventuriers, les fous, ne sont pas les seuls êtres sans racines, sans amitié. Dans les maisons bourgeoises alignées dans les rues, vivent des habitants sédentaires que rien n'attache au monde, qui ne se mêlent pas plus aux hommes que l'huile à l'eau. Antoine cherchait à se mêler aux hommes. Toute sa vie, il avait traversé des groupements humains, il avait imité leurs façons, il avait parlé leur langage et adopté leurs proverbes. Mais il n'avait pas été pénétré par eux. Il ne s'était pas épanoui parmi eux. C'était peut-être de ces groupes qui ne sont pas faits pour l'épanouissement. Les atomes humains perdus dans le vide de la vie bourgeoise s'associent pour oublier qu'ils ne sont qu'une poussière. Antoine aurait dû s'y prendre plus tôt pour partager cette grande illusion. C'est 20 ou 30 ans plus tôt qu'il aurait dû entrer dans une de ces constellations que forment les bourgeois des provinces. Une loge avec ses secrets, ses signes, ses complots transparents, un comité politique agité par les remous des élections, une association de musique, de chasse, de pêche, un groupe enfin auquel il aurait été assez jeune pour croire. Cette heure était passée. Antoine avait su d'une manière obscure toute sa vie que l'union véritable, l'union qui défiait déjà la solitude, qui balayait déjà la poussière de la vie bourgeoise, était l'union des ouvriers.
Philosophie, Géraldine Mulman.
Alors, puisque je vous ai interpellé directement, Chantal Jacquet, dans la frustration terrible, le vide intérieur même d'Antoine Bloyer, qui n'est pas comme les autres bourgeois qui ont appris à avoir des jeux collectifs, des activités ensemble, en tout cas dans lesquelles il voit une capacité à former un groupe. Lui n'éprouve pas cela. Il se sent toujours aussi seul, ni ouvrier, ni bourgeois. Isolé, désancré, est-ce un problème classique des transclasses qui montre que le désir de vengeance, s'il a existé, comme le dit Spinoza, oui, il est toujours frustré.
Alors dans le cas d'Antoine Bloyer, il n'est jamais question de vengeance ni même de revanche. Antoine est somme toute relativement passif, il se laisse faire, c'est un bon élève, son père désire aussi qu'il fasse des études, mais c'est pas un transfuge, au sens où il ne fuit pas son milieu, il serait plutôt happé par la révolution industrielle qui le place en position d'être un cadre, l'a besoin pour se développer de cadre pris dans ce réservoir de la classe ouvrière, comme le dit Nizan, et Antoine est d'une solitude affreuse parce que il incarne l'ouvrier chef. Le concept est employé par par Nizan et c'est un oxymore parce que c'est une place impossible parce qu'il n'est ni ouvrier ni chef. Il a trahi, il le dit lui-même, il se sentait traître et le narrateur ajoute et il l'était de façon cruelle. Donc il n'a plus sa place dans la classe ouvrière. Il n'est pas non plus un chef parce qu'il sent l'ouvrier d'une certaine façon. Donc il n'aura jamais, il ne maniera jamais le fleuron des lettres latines, dit Nizan. Et du même coup, cette solitude. C'est la solitude d'un être transclasse qui méconnaît la solidarité, la véritable union, comme nous dit Nizan ici, c'est l'union des ouvriers, parce que de la même manière, la bourgeoisie ne lui fait pas sa place, mais la bourgeoisie est aussi vide, nous dit le narrateur, et d'autre part, Antoine lui-même, c'est quelqu'un qui est un mort vivant, un mort en vie, et même, nous dit Nizan, un homme sans tête, il est décapité précisément parce que il est incapable de penser les liens. Donc, oui, il y a une frustration immense, mais cette frustration ne peut pas déboucher sur un combat commun, puisqu'il s'est coupé de ses racines, et il ne sera pas non plus adoubé par la bourgeoisie.
Et le désir de vengeance affleure d'une drôle de manière au fur et à mesure du livre, puisque quand son petit garçon naît, là, Antoine Bloyer dira « Il me vengera ». Ça, c'est assez troublant.
Une délégation est par procuration à l'avenir et ce qui n'adviendra jamais.
Je vous écoute.
Alors, peut-être que ce qui peut advenir, si on, selon les souhaits de l'auteur, hein, donc de Nizan, qui est un auteur communiste qui croit à ce collectif ouvrier. Mais oui, effectivement, Antoine Bloyer. Alors, il y a quand même aussi des questions économiques, hein, parce qu'à la fin de sa vie, sa carrière n'est pas florissante. Au contraire, il a un peu tout perdu. Même le capital économique, il est renvoyé de la compagnie. Et il y a le fait qu'il a parié sur la bourgeoisie. Et non seulement il n'avait pas la préparation sociale pour y appartenir, selon Nizan, mais aussi, selon Nizan, c'est forcément foncièrement une classe égoïste. Hein, les eaux glacées du calcul égoïste hein, de Marx, on connaît ça, qui est une classe qui se définit par l'individualisme, par sa carrière, sa propriété. Et Nizan, l'auteur communiste par excellence, veut nous vanter le collectif avec l'idée que, effectivement, le héros Antoine sera ça trop tard. Il nous dit à un moment, il sera trop tard que son père faisait partie de l'espèce humaine dont les derniers défenseurs tombent alors dans le quartier du Père Lachaise, donc la commune. Donc Antoine sera ça trop tard. Mais il y a bien l'idée en filigrane, je suis d'accord avec vous, que peut-être les autres pourront prendre la relève, la revanche sociale, une vengeance véritablement politique, qu'ils sauront voir ce qu'Antoine Bloyer n'a pas su voir.
Et il sera vengé, ou bien il faut pas parler comme ça, justement.
Ça s'est pas très bien passé. Après, le Parti communiste, Nizan, les années qui viennent.
En tout cas, la manière dont il parlait, il parle de l'union des ouvriers, et c'est pas en termes de vengeance, mais plutôt en termes de justice sociale. En tout
et
cas,
même de fête collective, oui. Il y a une dimension festive
bien
dans
sûr,
cette idée.
Cette espèce de jouissance de la grève, ouvrière. De la camaraderie, le fait d'être sous le regard c'est des ça. Autres et de défendre des valeurs qui vous dépassent. Là, il n'y a rien qui est de l'ordre de la vengeance.
Oui, parce qu'encore une fois, ce n'est pas la question de faire subir aux autres les dominations qu'ils nous ont fait subir, mais d'abolir ces dominations.
De les abolir.
En tout cas, dans l'idéologie de Nizan.
Baiser la main d'une femme du monde, et m'écorcher les lèvres à ses diamants, et puis dans la jaguar brûler son léopard avec une cigarette anglaise. Et s'envoyer des drailles aux Gordon et des Pimms, number one, avant que de filer chez Maxim's. Grand seigneur, dix sacs aux chasseurs. Enfin poser ma pelle, échauffer ma gamelle.
Si C'était Serge Gainsbourg, une chanson qui s'appelle Maximes en 1963. Merci beaucoup Laëlia Véron et Chantal Jacquet. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Voici le pourquoi du comment.
Comment le style est-il révélateur ? On entend souvent par style, en disant par exemple que quelqu'un a du style ou qu'il a fait les choses de manière stylée, et il faudra revenir sur le retour de cette expression dans nos sociétés aujourd'hui, on entend souvent par style quelque chose comme un supplément, quelque chose qui s'ajoute à l'essentiel d'une technique ou d'une pratique humaine pour y ajouter en quelque sorte une petite touche, une petite patte. En plus, ça a du style. Par exemple, on dit de tel ou tel objet technique que, en plus, il est beau, qu'en plus il est révélateur d'une époque. Oui, parce que le style, d'une manière générale, et c'est la source de cette réduction aussi de l'importance du style, il faut appeler style, d'une manière générale, tout ce qui individualise une pratique ou une technique humaine. Il y a donc du style en quelque sorte, par surcroît. L'important, c'est la technique elle-même. Il y a la technique de la parole, par exemple, qui répond à une fonction vitale. Et en plus, il y aurait la littérature, le style comme ornement, en quelque sorte, comme extérieur à la fonction de l'objet, comme s'y ajoutant de manière secondaire. Il est vrai que l'individualisation d'une technique a toujours quelque chose de secondaire. Si vous mourrez de faim, vous vous ficherez pour, si je peux me permettre, du style du cuisinier. Il faut d'abord la quantité de nourriture et ensuite vous pourrez vous interroger sur le style de tel ou tel cuisinier. Le style apparaît donc comme un luxe, comme un supplément, comme un ornement. Or, il y a là une profonde erreur. Peut-être que le style est si intrinsèque à la pratique des humains qui sont toujours non seulement des fonctions mais des manières individualisées de faire, situées dans une diversité créatrice des êtres humains et aussi dans une diversité historique de leur pratique, le style n'est peut-être jamais seulement une sorte de supplément qui traduirait une psychologie individuelle ou une contingence historique, le style des années 60, le style des années 80, mais le style est peut-être intrinsèque à toute pratique humaine, au moins autant qu'on est sorti de l'urgence vitale la plus pressante. Bien sûr, on ne s'occupe pas du style du médecin des urgences qui vient vous sauver la vie, on ne s'occupe pas du style quand on meurt de faim. Mais au-dehors de cette urgence absolue, le style redevient lui-même une puissance fondamentale des êtres humains, leur dimension créatrice et historique. Et il faut peut-être même aller encore plus loin. Et c'est Maurice Merleau-Ponty, dans un texte admirable intitulé « Le langage indirect et les voies du style », qui, d'une manière restée célèbre, a le plus montré comment le style est justement ce qui nous conduit au cœur des choses, au cœur de la vérité. Le langage comme objet technique est pour lui simplement, peut-être dans une critique d'ailleurs excessive, une manière de manipuler le monde et de ne pas le connaître dans sa profondeur. Quand nous employons les mots simplement comme des objets, comme des traductions apparemment objectives de la prose du monde, comme il dit en reprenant Hegel, alors nous n'accédons pas au cœur de la vérité. La vérité nous est cachée par le sens technique des mots. Il faut donc aller plus loin pour atteindre non pas seulement une sorte de luxe individuel, mais justement le cœur de l'être même des choses. Le style du vrai romancier, le style de Proust, ça n'est pas un luxe ornemental, c'est au contraire une traversée du langage pour nous reconduire à notre expérience la plus profonde. Je cite Merleau-Ponty, « Le roman, comme compte-rendu d'un certain nombre d'événements, comme énoncé d'idées, thèses ou conclusions, bref, comme signification directe, prosaïque ou manifeste, et le roman comme inauguration d'un style, signification oblique ou latente, sont dans un simple rapport d'homonymie. Le roman, ça n'est pas juste un compte-rendu d'un fait, c'est l'expression de quelqu'un qui nous donne la vérité de quelqu'un d'autre. Ainsi, la singularité du style n'est pas un luxe facultatif, c'est ce qui nous conduit dans ce que Merleau-Ponty appelait la chair du monde. »
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur le site franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Riyad Kera avec à la technique François Saint-Jour. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Chaïma Giboire, Philippine de Bélois et Antoine Ravon qui étaient encore avec nous en amont de cette émission. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.